Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 8 août.
Semi-conducteurs, la Corée du Sud participera à la réunion préalable de Chip 4. Le président Yoon revient de vacances sur fond de chute de popularité. Élection du nouveau chef du Minju, Lee Jae-myung plébiscité au premier tour. Fin Cambodge, un service d'ORL ouvre ses portes avec le soutien sud-coréen.
Séoul a récemment transmis à Washington sa volonté de participer à la réunion préalable de Chip 4. Il s'agit d'une concertation sur l'approvisionnement semi-conducteur proposée par Washington, qui souhaite réunir dans ce cadre quatre des principaux fabricants de puces électroniques, à savoir la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon et Taïwan. C'est ce qu'a fait savoir hier un haut responsable du bureau présidentiel de Yongsan lors d'une interview téléphonique avec l'agence de presse Yonhap. Au cours de cette assise, qui devrait avoir lieu fin août ou début septembre, devraient être abordées les modalités de ce nouveau cadre de coopération ou encore un nom officiel. Cependant, d'après cet officiel, ni la date ni la venue de la réunion n'ont été fixées. Par ailleurs, le gouvernement décidera de participer à Chip 4 ou non en fonction des résultats de cette assise. Jusqu'à présent, l'exécutif s'est montré très prudent sur ce sujet, alors que la Chine considère cette concertation comme un mécanisme visant à contrebalancer son influence dans ce secteur. À cet égard, le chef de la diplomatie Park Jin, qui s'est envolé en fin de journée vers l'Empire du Milieu, devrait expliquer la position de Séoul sur ce sujet sensible à son homologue Wang Yi lors de leur entretien à Qingdao.
Et alors que la cote de popularité du président de la République est une nouvelle fois tombée la semaine dernière sous les 30% de satisfaction, selon un sondage réalisé pendant ses premières vacances d'été depuis son investiture, Yoon Suk-yeol est revenu au bureau présidentiel de Yongsan ce matin. Et sur le chemin de son bureau, le chef de l'État a notamment souligné qu'il respecterait pleinement la volonté de ses compatriotes, comme tout au début de son mandat. En ce qui concerne la demande de renouveler les postes clés qui ont été attribués à des proches, tels que la ministre de l'Éducation, eh bien, il a indiqué l'examiner, ce qui laisse entendre qu'il pourrait remplacer Park Sun-hye, qui a récemment provoqué une polémique sur la baisse de l'âge d'entrée à l'école primaire. Et la direction de la politique de la nouvelle administration devrait être précisée dans les jours qui viennent, notamment à l'occasion de la journée de la libération qui tombe lundi prochain et à l'anniversaire des 100 jours de sa prise de fonction, de date où le président Yoon prendra la parole.
Politique toujours, le Minju, la première force de l'opposition, a lancé la procédure pour élire sa nouvelle direction. Selon les premiers résultats, Lee Jae-myung, le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de mars dernier, a remporté une victoire écrasante au premier tour parmi les trois députés en lice. L'ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a récolté 74,8% des voix lors du scrutin organisé samedi dernier dans la province de Gangwon à Daegu et dans la province de Gyeonggi du Nord, dans le cadre d'une tournée de vote auprès des adhérents cotisants au Minju. Le lendemain, il a engrangé 70,48% des voix sur l'île de Jeju et 75,40% à Incheon. Selon le cumul des résultats locaux, il a ainsi obtenu un soutien sans appel avec 74,15% des voix. Park Yong-jin arrive en deuxième place et Kang Un-sik au troisième rang. Pour précision, le Minju a organisé l'élection de son nouveau patron sur une base de quatre volets, à savoir le vote des adhérents cotisants du parti, celui des grands représentants, ainsi que d'un sondage des citoyens non adhérents et de celui des adhérents non cotisants, avec un ratio respectif de 40, 30, 25 et 5%.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Ces dernières 24 heures, 55 292 nouvelles contaminations ont été recensées, dont 482 cas importés. Ce chiffre est 1,2 supérieur par rapport à celui de la semaine dernière et 1,5 fois plus que celui d'il y a deux semaines. C'est aussi le plus haut niveau pour un lundi depuis 17 semaines. Le nombre de cas graves s'élève désormais à 324. Avec 29 décès supplémentaires, le taux de létalité en Corée du Sud s'établit à 0,12%. D'après les autorités sanitaires ainsi que les experts, au rythme avec lequel le nombre des nouveaux patients augmente, la propagation de la pandémie devrait atteindre son pic cette semaine, avec environ 150 000 nouvelles contaminations journalières. Cette nouvelle vague pourrait toutefois se prolonger plus longtemps que la normale et le nombre de nouveaux malades devrait diminuer lentement. Les autorités restent cependant optimistes, comme cette fois-ci le pays dispose des bons traitements et de vaccins. Et dans ce contexte, à partir d'aujourd'hui, a été autorisée l'injection de Levulced, une nouvelle bithérapie à base d'anticorps monoclonaux à ceux qui ont du mal à produire des anticorps même après avoir été vaccinés ou à ceux qui souffrent d'une baisse de leur immunité. Et avant la fin de cette année, 20 000 doses de ce traitement devraient être reçues. Sa capacité de neutralisation contre les sous-variants Omicron BA4 et BA5 a été récemment prouvée et ces traitements resteraient valables pendant plus de 6 mois.
Dossier nord-coréen à présent. La Corée du Nord aurait élargi les travaux de démolition des installations de la zone touristique intercoréenne située au mont Kumgang sur son sol. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un responsable du ministère sud-coréen de la réunification. Selon le ministère, la Corée du Nord poursuivrait le démantèlement de l'hôtel Haegeumgang et le terrain de golf Ananti. Il a récemment commencé à démolir le pavillon Unjongak et le bureau sur place de l'entreprise sud-coréenne Hyundai Asan. C'est la même qui avait mené le projet d'aménagement de la zone Kumgang. Ainsi, le gouvernement sud-coréen confirme-t-il une partie de l'analyse avancée par NK News, le média spécialisé dans les actualités nord-coréennes. S'appuyant sur des photos satellites récentes prises du site, celui-ci a rapporté hier que Pyongyang détruirait ou démontrerait non seulement Unjongak et l'antenne de Hyundai Asan, mais aussi le centre culturel Kumgang et le village Kulyong qui servaient de lieu d'hébergement pour les retrouvailles des familles séparées. Le ministère sud-coréen ajoutait qu'il fallait suivre de près l'évolution de la situation pour une analyse précise. Il n'a toutefois pas manqué de condamner l'initiative illégale nord-coréenne qui va à l'encontre de l'accord intercoréen. Il a appelé Pyongyang à cesser immédiatement cet acte unilatéral et à s'engager dans le dialogue.
Et puis, suite à la levée du confinement de Sinŭiju, l'une des principales villes de commerce entre la Corée du Nord et la Chine, les trains de fret reliant les deux pays, dont le service est suspendu depuis fin avril en raison du Covid-19, devraient reprendre avant la fin du mois. De l'avis des observateurs, il est probable que Pyongyang juge que la situation de la pandémie dans son territoire est entrée dans une phase de stabilisation et que le prolongement du blocus rendrait la crise économique plus difficile à surmonter. Et Pékin semble partager cet avis et aurait décidé de lui emboîter le pas. En effet, selon une source à la frontière nord-coréano-chinoise, un marchand l'aurait prévenu que les échanges commerciaux bilatéraux repartiraient à partir du 17 août.
En avril dernier, grâce au soutien de la Corée du Sud, le service d'otorhino-laryngologie de l'hôpital national Préandung a ouvert ses portes à Phnom Penh au Cambodge. Cet hôpital est un établissement public qui soigne en moyenne 600 patients par jour. Un peu d'histoire. Établissement vétuste. Ses premiers bâtiments ont été construits en 1910. Malgré certaines rénovations ici et là, les patients atteints de cancer étaient souvent renvoyés chez eux par manque d'espace et d'équipements médicaux. Le gouvernement cambodgien a donc demandé à son homologue sud-coréen une aide pour améliorer ses installations en 2018 et Séoul lui a alors offert 10 milliards de won ou 7,5 millions d'euros pour bâtir un nouveau service d'ORL de 5 étages. Le directeur adjoint de l'hôpital a déclaré que les patients viennent de presque tout le pays et l'important est que même les plus défavorisés puissent être soignés ici. En parallèle à ce soutien du gouvernement sud-coréen, cela aussi conduit au développement de l'enseignement de la langue coréenne et des start-up. Selon le chef du bureau de l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, au Cambodge, la Corée du Sud se concentre sur le développement dans les domaines de l'éducation et de la santé, car depuis le génocide cambodgien dans les années 70, la main-d'œuvre et les talents se font rares dans le pays. Jusqu'à présent, l'aide officielle de la Corée du Sud pour l'avenir des pays en développement a dépassé les 4 000 milliards de won, une somme équivalente à 3 milliards d'euros.
La place de Gwanghwamun, située au centre de Séoul, a été réouverte pour la première fois depuis 1 an et 9 mois. Et pour sa réouverture samedi, de nombreux citoyens se sont rués dans le centre de la capitale pour découvrir le nouveau visage de la place, doté de plusieurs aménagements. Et beaucoup parmi eux ont trouvé son nouvel agencement très agréable. La grande nouveauté, c'est que pour accéder à ce site, il n'est plus nécessaire de traverser la grande avenue qui l'entourait. Autrefois, la place était bordée par une très grande avenue de 4 voies de chaque côté, mais après les travaux, les voies ouest ont été supprimées. Avec cette disparition, la superficie totale a doublé et l'espace vert a triplé, comme plus de 5000 arbres ont été plantés. Une petite zone a été également installée pour admirer des vestiges de la dynastie de Joseon découverts pendant les travaux. Et lors du spectacle qui a eu lieu pour fêter cette réouverture, étaient présents les 300 citoyens chanceux qui avaient pu réserver leur place par avance. La ville de Séoul envisage désormais de transformer la place de Gwanghwamun en un beau parc qui fera office de lieu culturel. Cependant, la municipalité a décidé d'interdire toutes les manifestations et autres rassemblements qui, selon elle, peuvent occasionner du bruit ou nuire à la circulation. Cette interdiction n'a pas manqué de provoquer l'indignation des associations civiques. Elle dénonce une violation des droits garantis par la Constitution, à savoir la liberté de se rassembler et de manifester. Ainsi, la polémique sur ce sujet devrait se poursuivre pendant un certain temps.
C'est la fin de ce journal présenté par Joanne Blondeau et moi-même Oh Ha-young. Merci de votre attention.